La baronne trépassée, quatrième fichier. Chapitre 15. À 10 heures du soir, après un souper où, malgré ses efforts, il n'avait pu parvenir à être sobre, monsieur le baron de Nossac se retira dans sa chambre et ferma la porte au verrou. « Ah, ça !» pensa-t-il. « Que veut dire tout cela? Et dans quel état se trouve mon pauvre cœur ? J'aimais ma femme ? Et Gretchen lui ressemble d'une manière si frappante que je serais tenté d'aimer Gretchen. J'en étais jaloux aujourd'hui. J'ai horriblement souffert durant cette promenade à travers les bois et les prairies de mon hôte, pendant laquelle elle n'a pas quitté le bras de ce colosse de student. Et cependant, ce n'est pas elle que j'aime. Cela est impossible. J'aime Rochen. Rochen, belle et pure entre toutes. Rochen qui m'a avoué son amour. » Le baron se frappa soudain le front. « Que m'a-t-elle dit? Qu'a-t-elle voulu me dire? Et pourquoi cette terreur qui s'est emparée d'elle, à la simple pensée qu'on pourrait nous entendre? Willem la tuerait, disait-elle. Pourquoi Willem plutôt qu'un autre de ses frères? » Et le baron se prit à rêver. « Elle va venir sans doute, se dit-il. Elle viendra. Elle me l'a dit. » En ce moment, une pensée sinistre traversa l'esprit du baron. Il songea à Gretchen, qui sans doute était au bras d'Hermann, et il frémit de colère. Et alors, comme il avait toute sa raison et qu'à tout prix il fallait chasser ce fantôme et refouler cette jalousie stupide, il appela l'image de Rochen à son aide et murmura « Rochen, Rochen, venez vite !» Mais Rochen ne vint pas. Et le baron trouva sur son lit un imperceptible rouleau de papier qu'il déplia d'un air distrait. Ce rouleau renfermait 2 lignes sans signature et en français. « Willem m'épie. Je n'irai pas ce soir. Nous verrons demain. »« Willem, toujours Willem !» murmura monsieur de Nossac avec colère. « Quelle influence fatale ou maudite a-t-il donc sur sa sœur ?»« Sa sœur ! Est-ce sa sœur ?» Et comme il sentait, à ce doute terrible, ses cheveux se hérisser, de même que pour fuir Gretchen il s'était réfugié dans le souvenir de Rochen, de même pour échapper à ce doute qui l'assaillait, il se reprit à penser à Gretchen. « Gretchen, murmura-t-il, vous aimerais-je ? Mon Dieu, vous aimerais-je ? » Et il se mit au lit avec cette pensée. Et comme la veille, il sentit soudain une lourdeur étrange étreindre en cercle son cerveau comme un anneau de fer, et il eut à peine la force de placer, suivant son habitude, son épée à son chevet. Alors, comme ses soupçons sur Rochen s'étaient évanouis, il voulut encore songer à elle, la revoir en songe, dans toute la splendeur virginale de sa beauté. Mais l'image évoquée de Rochen ne vint pas. Rochen s'effaça malgré lui de son souvenir. Rochen disparut. Et Gretchen, non plus la grisette rieuse de la prairie, mais Gretchen, la pâle trépassée, Gretchen sortant de sa bière et belle avec son masque aussi froid qu'une couleuvre, Gretchen reprit un despotique empire sur son esprit impressionné et fasciné. Il s'écria « Gretchen, Hélène, qui que tu sois, je t'aime. » Et tout aussitôt, qu'il dormît ou non, la chose est difficile à préciser, à cause de son étrange malaise de corps et d'esprit. Tout aussitôt, comme si elle eût répondu à cette invitation, et bien que la porte fût fermée au verrou, Gretchen entra et marcha lentement vers le lit. Le baron frissonna et voulut reculer, mais il se sentit paralysé dans tous ses membres. Il essaya de fermer les yeux et ne put y parvenir. L'effroi rivait son regard au visage ardent et pâle de Gretchen. Gretchen vivante, Hélène trépassée, s'approcha du lit, se coucha silencieusement à côté du baron, lui mit sur le front un baiser glacé, puis l'enlaça de ses doigts de marbre et lui dit « La nuit dernière, je t'ai promis de revenir. Je reviens. » « Mais sois tranquille, ton sang m'a fait du bien, je le ménagerai. » Et comme la veille, elle le mordit au cou. Chapitre 16. La sensation que cette morsure fit éprouver au baron fut moins douloureuse qu'emplie d'une âcre volupté. Pourtant, il sentit son sang couler, et aux ondulations régulières de la poitrine et de la gorge du vampire, il comprit qu'il buvait à longs traits et avec une avidité sauvage. Enfin, Gretchen ou le vampire, ou Hélène de Nossac, car le baron ne savait plus à qui il avait affaire. Cet être étrange, disons-nous, s'arrêta, repu, et s'allongea sur le lit à côté de sa victime, dans une pose remplie d'une voluptueuse langueur. « Baron, dit-il, je t'ai pris trop de sang aujourd'hui, et j'en suis bien fâché, mais j'avais si soif. Et puis, vois-tu, je suis jalouse depuis ce matin, jalouse comme une tigresse. Car tu aimes cette petite Rochaine, et tu veux l'épouser. » Monsieur de Nossac fit un effort suprême pour parler. « Non, murmura-t-il. Dis-tu vrai, mon bien-aimé ? » Et le vampire appuya ses lèvres glacées sur la bouche frémissante du baron. « Mon cher baron, reprit le vampire, tu avais raison de me reconnaître ce matin. Je suis bien réellement ta femme. » Ta femme que tu as tuée et qui t'aimait tant. Ta femme qui a fait 800 lieues à pied, enveloppée dans un suaire blanc, à travers les ronces, la nuit et le froid, pour venir se réchauffer une heure en buvant un peu de sang et te prenant un baiser. Monsieur de Nossac retrouva quelque force et essaya de repousser le vampire. Le vampire continua. Sais-tu pourquoi les morts ont toujours froid ? C'est qu'ils n'ont plus une goutte de sang dans les veines. Si j'avais eu la 10e partie de celui que je viens de te prendre, très certainement je n'aurais point été obligé de tenir mon suaire à 2 mains et de m'envelopper dedans avec un soin extrême pour me garantir des âpres caresses du vent. Et vois-tu, à mesure que j'approchais du lieu où tu étais, je sentais le froid diminuer. Et hier, comme j'avais bu la nuit précédente, j'ai eu chaud. Vers le soir, cependant, la fraîcheur m'a reprise. J'ai eu par-ci, par-là, quelques frissons, et j'ai trouvé que la nuit était lente à venir. Elle est venue enfin. Maintenant j'ai bu, je t'ai baisé au front et sur la bouche, j'ai réchauffé mon cœur et mon corps. Oh, c'est que je t'aime, ami. J'aurais pu t'oublier, cependant, comme tu m'as oublié, ingrat. J'aurais pu, dans le monde où est allée mon âme, épouser un ange ou un saint, beau et jeune tous deux de l'éternelle jeunesse. Je ne l'ai pas fait. J'ai préféré revenir animer mon corps, qui dormait paisiblement dans son cercueil, à l'abri de l'air âpre des nuits et des rayons ardents du soleil. Je l'ai fait se lever, ce pauvre corps, rejeter sa pierre tumulaire, et marcher, marcher sans relâche du crépuscule à l'aube suivante, chaque nuit. Car le jour, j'étais obligé d'entrer dans le premier cimetière qui se trouvait sur ma route et de m'y coucher dans une fosse vide jusqu'à ce que la brume tombât. Je suis arrivé ainsi à Heidelberg. Là, il y avait une jeune fille, nommée Gretchen, qui me ressemblait trait pour trait. Cette jeune fille était la maîtresse d'un étudiant appelé Hermann de Oldengrasbourg, le fils de ton hôte, baron. Hermann avait depuis longtemps l'envie de la quitter, cette pauvre fille, et il attendait que l'occasion s'en présentât. Son père, sur ses entrefaites, lui écrivit ainsi qu'à ses frères de revenir en Bohême au plus vite. L'occasion se présentait. Hermann monta à cheval un matin et partit, laissant quelques mots d'adieu bien froids à l'adresse de Gretchen. Gretchen attendit Hermann toute la journée. Le soir, elle reçut cette lettre. Se trouva mal, eut une fièvre cérébrale et mourut dans les 24 heures. J'étais arrivé dans le cimetière d'Heidelberg le matin même du jour où on l'enterra, et comme je n'avais pu trouver la fosse vacante, je m'étais blotti dans une touffe de cyprès dont le noir feuillage m'abritait des rayons du soleil. Je vis passer près de moi la bière de Gretchen. Sa bière était découverte, selon l'usage allemand, et je pus voir son visage. Je fus frappé de la ressemblance extraordinaire que Gretchen avait avec moi. Si frappé que j'eus l'idée de te rejoindre, à l'aide d'un stratagème que me fournirait cette ressemblance. Je passai le jour tout entier dans ma touffe de cyprès et j'attendis la nuit avec impatience. Quand la nuit fut venue, j'allai vers la tombe de Gretchen et, m'armant de la pelle que le fossoyeur avait oubliée, je remuai la terre fraîche. J'eus bien de la peine, va, car il y avait si longtemps que je n'avais plus de sang, si longtemps que je marchais sur la terre glacée. Je parvins cependant à déterrer Gretchen, et quand je l'eus fait, je la déshabillai complètement et je me revêtis de ses habits. Je lui enlevai tout, tout jusqu'à la croix d'or qu'Hermann lui avait donnée et qui était encore à son cou. Et puis, comme malgré ses vêtements j'avais froid encore, je lui pris son suaire, que je mis par-dessus le mien, et continuai ma route. Après 8 nuits de marche, j'arrivai ici. Je savais, car les morts savent tout, je savais que tu y viendrais le lendemain. Et je trouvai Hermann, ses frères et son père, assis au coin du feu et devisant. Quel dommage que je n'ai point amené cette pauvre Gretchen.
Pourquoi, quel dommage ? Demanda le comte de Hohengrasburg.
Parce que le marquis de Simian, que j'ai soigné, prétendait qu'elle ressemblait fort à la baronne de Nossac, qui est morte il y a 1 an. Et puisque nous attendons le baron, elle aurait pu nous rendre un véritable service en se chargeant du rôle de la trépassée dans la comédie que nous lui préparons.
J'étais demeuré sur le seuil, et il ne m'avait point entendu venir.
« Gretchen accepte le rôle !» dis-je tout à coup. Ils se retournèrent stupéfaits. Hermène balbutia et pâlit, et le comte, que je ne connaissais pas, me regarda avec étonnement. « Mon cher Hermann, dis-je à l'amant de Gretchen, vous êtes un ingrat et je devrais vous haïr, mais je vous pardonne. » Il se jeta à mes genoux et me prit la main. « Dieu ! » fit-il tout ému, « comme tu as froid !»«
Je suis venu à pied, » répondis-je, « et j'ai marché toute la nuit. »
Et je m'approchai avidement du feu, car mes forces commençaient à être épuisées, et je me chauffai un grand quart d'heure sans parler.
« Pauvre Gretchen !» murmurait Hermann avec fatuité, « comme elle m'aime !»«
Madame, » me dit le comte de Hohengrasburg, « n'êtes-vous point effrayée du rôle que l'on vous destine ?»«
Pas le moins du monde, » répondis-je. « Le rôle me plaît fort, et je le jouerai très naturellement. »«
Vous croyez ?»«
J'en suis sûre. »
Hermann se mit à rire.
« Bonne Gretchen, » fit-il.
« Est-elle courageuse ?»«
Je crois vous l'avoir prouvé, » répondis-je sèchement, « car je suis venue d'Heidelberg à pied en mendiant. » Or, comme je ne veux rien de vous, puisque vous m'avez quitté et laissé sans argent, je viendrai ici chaque soir, je resterai jusqu'à l'aube et m'en irai.
Où donc ? Demanda le comte.
Chez le curé du village, qui est à 1 lieue d'ici.
À pied ?
Non, vous me prêterez un cheval.
J'avais fait un mensonge en disant que j'irais chez le curé du village, mais il le fallait bien pour avoir le droit et le prétexte d'aller me coucher dans un lit de trépassé chaque matin. Hermann voulut insister, ses frères et son père se joignirent à lui.
« Préférez-vous, lui dis-je, que je m'en aille tout de suite et que je ne joue point mon rôle de trépassé ?»«
Non, non, » dirent-ils.
« Laissons-la faire, » dit Hermann, « c'est un caprice de femme qui lui passera. »
Le jour commençait à venir. Le comte et ses fils, qui s'étaient oubliés au coin du feu, se levèrent pour aller se coucher.
« À ce soir, » dis-je à Hermann.
Il voulut me retenir, je fus inflexible. On me donna un cheval, et je t'assure qu'il ne me fut point inutile, car j'étais bien lasse. Je l'enfourchai et pris la route du village dans le cimetière, duquel j'avais passé la nuit précédente. Il y avait, à l'entour du champ de repos, une belle prairie. J'y cueillis quelques vergis meinicht et quelques marguerites pour en respirer le parfum dans ma fosse. Et j'attachai le cheval à une haie d'aubépine. Le cheval se mit à brouter l'herbe et je rentrai dans le cimetière. La fosse vide que j'avais occupée la veille était prise depuis la brume. J'errai plus d'une heure sans en trouver une autre, et je fus obligé d'attendre dans une touffe de cyprès que le fossoyeur, qui en creusait une depuis l'aube, eut achevée et fut parti. Le soir, je retrouvai le cheval, je remontai dessus et gagnai le château au galop.
Le comte et ses fils me reçurent à bras ouverts. Ils m'indiquèrent mon rôle, que je savais d'avance, tu imagines bien, et ils me dirent qu'un snappant devait amener le lendemain de Marianne Werder. « Gretchen, me dit Hermann, viens chez moi, il faut que je te donne toutes les instructions nécessaires. »«
J'ai froid, lui répondis-je, restons ici. »
Quand il eut fini de me parler, l'heure du départ était venue pour lui et ses frères, et il lui fallut me quitter.
« Oh » murmura-t-il avec une colère dépitée. « Tu t'es moqué de moi, Gretchen, mais ce soir... »«
Ce soir, répondis-je, ce sera de même. Je veux vous punir. Je dormirai côte à côte avec vous, et vous me respecterez, ou je vous tuerai. » Et je lui montrai le poignard que Gretchen portait à sa ceinture et que je lui avais volé.
« Tu es une étrange fille, » me dit-il.
« Il en sera comme tu voudras. » « Je n'ai pas besoin de te raconter ce qui se passa le soir, tu le sais aussi bien que moi. » Après la comédie, je me retirai avec Hermann dans sa chambre, je lui soufflai sur le front et je l'endormis. C'est alors que je vins te trouver. En te quittant, je retournai chez Hermann, et quand il s'éveilla, il me vit près de lui. Une heure après, je laissai, comme la veille, mon cheval dans la prairie et j'entrai dans le cimetière. Sur le seuil du champ funèbre, je rencontrai une jeune morte qui sortait enveloppée de son suaire. « Où allez-vous ? » lui demandai-je. « Ne savez-vous pas que le jour vient et que le soleil va paraître ?»«
Je le sais. »
« N'êtes-vous point morte ?»«
Sans doute. »
« Les morts ne peuvent cependant voyager que la nuit. »
« Vous avez raison, mais c'est aujourd'hui la fête Dieu, et ce jour-là, les femmes qui sont mortes vierges peuvent errer jusqu'au soir par les prés fleuris et les haies vertes pour cueillir et se tresser des couronnes de marguerites et d'aubépines blanches. J'étais vierge quand je suis morte, juste de mon droit.
« Où est votre tombe ? » lui demandai-je.
« Là-bas, » me répondit-elle en l'indiquant du doigt.
« Eh bien, » lui répondis-je, « je m'en vais me coucher dedans une heure, car j'ai voyagé toute la nuit, et quand j'aurai dormi un peu, j'irai vous rejoindre. » « J'ai moi aussi envie de marguerite et d'aubépine. Et comme vous, je suis morte vierge. »
C'était vrai, n'est-ce pas ?
Je dormis une heure, en effet. Et puis, en me levant, j'eus la pensée de t'apparaître en plein jour. Et au lieu de rejoindre la jeune morte, je remontai à cheval et j'arrivai, à la stupéfaction générale, sous le berceau où vous déjeuniez.
« Maintenant, cher ange, » acheva le vampire, «
j'ai chaud et je suis forte, je vais te quitter. Je reviendrai la nuit prochaine. Et même tu me reverras avant, car je serai de retour du cimetière après le coucher du soleil. Adieu. » Le vampire baisa de nouveau le baron sur la bouche et au front, puis il s'en alla avec sa lente raideur habituelle. Sur le seuil, il se retourna une dernière fois, lui envoya un baiser et un sourire, et disparut. Tout aussitôt, le baron se sentit pris d'une fièvre étrange, d'un sommeil de plomb qui l'étreignit et paralysa sa pensée pendant plusieurs heures. Et lorsqu'il se réveilla enfin, il entendit près de lui, de l'autre côté de la cloison à laquelle son lit était appuyé, deux voix qui s'entretenaient à bas bruit. L'une était celle de Willem, l'autre celle de Rochaine. Le baron avait menti à son insu quand il avait dit à la trépassée qu'il n'aimait pas Rochaine, car il tressaillit vivement, et la jalousie le mordit au cœur lorsqu'il eut reconnu sa voix mêlée à celle de Willem. Chapitre 17. La voix de Willem fit tressaillir profondément le baron. Il fut soudain dominé par une curiosité inflexible, et tout sûr d'avance qu'il était, qu'il allait entendre de cruelles choses pour lui, il appuya son oreille à la cloison et se mit à écouter, avec une avidité presque sauvage. « Je vous dis, Rochaine, » disait la voix de Willem, « je vous dis que vous n'êtes plus la même pour moi depuis deux jours. »«
Fou ! » !»«
Oh, je ne le suis point, soyez tranquille.
Il faut bien que vous le soyez pour tenir un aussi ridicule langage. »«
J'ai un cœur qui sent... »
« Ah !» fit Rochaine avec une certaine ironie.
« Et des yeux qui voient !»«
Vraiment !»«
et la voix de Rochaine devint railleuse. « Oh, voyez-vous, Rochaine, comme je vous le dis, je vois et je sens. Depuis que cet étranger maudit a passé entre vous et moi, depuis que nous jouons cette comédie infernale, vous avez pris votre rôle au sérieux. »«
Sans doute !» fit Rochaine avec un éclat de rire qui n'avait rien de bien ingénu.
« Vous l'aimez ?»
Rochaine poussa un cri.
« Oh, tu ne le crois pas, n'est-ce pas, mon Willem ? »
fit-elle avec l'accent de la prière.
« Je fais mieux, » dit Willem d'une voix sourde. « Je le sais. »«
Folie ! » !»«
Je l'ai deviné. »«
Mensonge !»«
Je le sens et je l'ai deviné, te dis-je. Je le sens aux pulsations désordonnées de mon cœur. Je l'ai deviné hier à la manière lascive et indolente avec laquelle tu t'appuyais sur son bras. Je t'ai vu pâlir et trembler quand Gretchen lui est apparue.
Rochaine, tu me trompes, ou tu vas me tromper.
Willem !
Si tu le fais, reprit Willem avec une colère croissante.
Malheur à toi, Rochaine, malheur à toi.
Mais je te jure.
Je t'ai ramassé dans la boue, Rochaine. Tu étais une grisette d'Heidelberg, la fille d'un tailleur, rien de plus.
Grâce, murmura Rochaine tremblante.
J'ai fait de toi la maîtresse d'un étudiant, et d'un étudiant gentilhomme. Qui mieux est, je t'ai donné or et bijoux, parure et...
Vous êtes un lâche, s'écria Rochaine l'interrompant.
Vos reproches sont une insulte pour moi, et surtout pour vous-même.
Oui, je suis devenue, de pauvre grisette que j'étais, la maîtresse d'un gentilhomme. Mais la grisette était pure, elle était honnête fille. Et dans le quartier où mon père rapiéçait de vieux habits, elle était respectée comme telle. Aujourd'hui, vous avez changé ma misère en opulence, mais je suis déshonorée et je baisse la tête.
Willem poussa un cri de rage.
« Est-ce que, dit-il, le peuple peut avoir de l'honneur et en parler comme nous, gentilhomme ?»«
Le peuple, Willem, est plus noble dans sa pauvreté et son rude labeur qu'un gentilhomme comme vous qui déshonore son écusson en essayant de le redorer avec de l'or mal acquis. »«
Que veux-tu dire, malheureuse ?»«
Je veux dire, Willem, que sans trop savoir ni le prix qu'on vous a donné, ni le but qui a fait dicter votre conduite, le métier que vous faites depuis quelques jours est infâme. »
Willem rugit de colère. « Qui te dit ? » fit-il d'une voix étranglée. « Qui te dit qu'il n'y a pas un but politique ?»«
Ah oui !» fit ironiquement Rochden. « Voilà l'excuse éternelle des gentilshommes d'Heidelberg quand ils font une lâcheté. »«
Lâcheté ?»
« Ils prétendent, » continua Rochen avec calme, « qu'ils ont un but politique. »
Et cette femme, cette Gretchen, qui vous stipendie, qui vous dirige, a-t-elle un but politique, elle aussi ?
Rochaine, interrompit Willem au comble de la fureur, si tu ajoutes un mot de plus, je te tue.
Rochaine poussa un cri de terreur et demanda grâce. Il est aisé de comprendre ce qu'avait souffert monsieur de Nossac pendant ce dialogue, qui, pour ainsi dire, déchirait un coin de ce voile mystérieux qui semblait envelopper le château et ses étranges hôtes. Mais son indignation fut au comble quand Willem menaça Rochaine de la tuer, et il sauta vivement à terre et mit la main sur son épée. Tout aussitôt, soit hasard, soit que dans la pièce où causaient Rochaine et Willem on eût entendu le bruit qu'il venait de faire en quittant son lit, il se fit un profond silence. Puis une porte parut s'ouvrir, et une voix nouvelle résonna, impérieuse et brève, et s'exprima en langue slavone.
« Ça, Willem !» disait cette voix que le baron reconnut pour celle de Samuel, son frère jumeau. « Quand auras-tu fini de te quereller, ou bien même de feindre une querelle avec Rochaine, qui est notre sœur et non ta maîtresse, entends-tu ? Penses-tu que notre hôte ne t'ait point entendu ?
Oh, si fait ! Ricana Willem sur un ton bas et presque étouffé. « Il sera jaloux le reste de la nuit, ce pauvre baron. »«
Et c'est ma foi fort mal, » murmura Rochaine, également à voix basse, « car il est noble et brave, mon futur époux, et vous le traitez comme un vil pandour. »«
Il faut avouer, » reprit-elle en riant, « mon père a d'étranges caprices et des théories bien inflexibles sur la bravoure. »
Tout autre que le baron n'eût pu résister aux épreuves terribles qu'il lui a fait subir.
« Ce qui, il me semble, continua Samuel, n'implique nullement la nécessité de la bizarre dispute dont Willem, qui a bu toute la nuit, lui inflige l'audition. Car, tudieu, s'il dort avec le vacarme que vous faites ici, il faut qu'il ait passé 365 nuits consécutives dans un commerce de renards, pendant qu'on y fêtait le roi des étudiants. »
Willem se prit à rire d'un rire aviné. « Allons, » ajouta Samuel, « va te coucher, Willem, et toi, Rochaine, viens avec moi. Je vais te conduire jusqu'à ta chambre. »
« Mon petit Samuel, » murmura Rochaine, « est-ce que toutes vos mystifications à l'égard de mon futur époux ne sont pas encore terminées ?»«
Morbleu !» pensa Willem, « j'espère bien que non. Je veux être sûr, bien sûr qu'il est brave. »
« Tu es ivre, » fit sentencieusement Samuel, « et tu te mêles de choses qui ne te regardent point. Va te coucher, fils de Noé, et cuve ton vin si tu peux. »
Monsieur de Nossac était abasourdi de tout ce qu'il entendait. Des deux versions si contradictoires qui venaient de résonner à son oreille, laquelle était donc la vraie ? Était-ce celle de Willem appelant Rochaine une grisette d'Heidelberg et la traitant avec le sang-gêne de l'étudiant pour sa maîtresse ? Dans ce cas, il fallait s'avouer que ce sourire ingénu, que cette candeur virginale qui brillait au front de la jeune fille, composait un ignoble mensonge, une antithèse hideuse, un paradoxe en action dégoûtant. Ou bien Samuel traitant Willem d'ivrogne et l'accusant de vouloir exciter la jalousie du baron et mettre son amour à l'épreuve. Était-il sincère? Il y avait deux raisons pour que M. de Nossac ajoutât foi aux paroles de Samuel. La première, c'est qu'il ne pouvait, lui, le rouer et le blesser, il ne pouvait croire à la perversité de Rochaine, et voir en elle qui avait le geste digne, l'accent distingué, le regard candide d'une jeune fille de bonne noblesse, la grisette d'Heidelberg, l'étudiante qui écorche la langue qu'elle parle et qui boit, en plein soleil, de la bière et de l'eau-de-vie dans le verre de son amant. La seconde était encore plus raisonnable. Willem et Rochaine s'étaient d'abord exprimés en français, preuve qu'ils voulaient être entendus. Samuel, au contraire, avait pris la parole en slavon. Et tout aussitôt, Willem et Rochaine s'étaient exprimés dans la même langue. Un long silence suivit l'altercation qui avait eu lieu entre Rochaine et ses deux frères, et il devint évident pour le baron qu'elle était partie avec eux. Il jugea prudent de se recoucher, car il avait besoin de réfléchir et de chercher la solution et le but de tous les mystères qui l'environnaient. Il y avait bien, parmi les choses extraordinaires qu'il avait vues et entendues, des choses qu'à la rigueur on pouvait expliquer, telles que l'histoire des veneurs noirs, la chasse aux flambeaux, etc. Tout cela ne prouvait qu'une chose, l'humeur facétieuse du châtelain de Oldengrasbourg. Mais Gretchen, c'est-à-dire Hélène de Nossac, trépassée, Hélène qui avait pris les vêtements de Gretchen, Hélène qui, disait-elle, était sortie de sa tombe et avait fait 800 lieues à pied la nuit, et couchant chaque matin dans un nouveau cimetière, ainsi qu'un voyageur s'arrête chaque soir à la porte d'une hôtellerie, comment expliquer cela? Le baron oublia un moment Rochaine, Willem et ses frères pour songer à la trépassée. Alors, de même qu'il avait oublié Gretchen, en entendant dans la pièce voisine résonner les voix de Rochaine et de Willem, de même, les voix éteintes, il se reprit à songer à Gretchen, et s'attacha à ses souvenirs de la nuit avec une désespérante ténacité. Il analysa avec un soin extrême toutes ses sensations, se remémora chaque parole de la trépassée, chaque phrase de son incroyable histoire, et finit par en conclure que c'était bien réellement sa femme qui l'avait tuée, et à qui Dieu permettait de sortir de sa tombe pour tourmenter son époux vivant. Tout à coup, dans la pièce voisine, où naguère il avait entendu Willem et sa sœur, s'éleva une voix stridente qui dit le premier couplet de la légende du veneur noir. Puis, ce couplet fini, la même voix ajouta. « Eh bien, messire Satan, mon père, n'ai-je pas bien joué hier mon rôle de châtelain? Et n'êtes-vous pas content de moi ? J'ai éteint assez bien le charbon de mes yeux et l'éclair de mon ongle. Et Dieu me damne comme si je ne l'étais déjà, si ce petit baron de Nossac ne me croit pétri de chair et d'os comme lui. » En entendant ces étranges paroles, le baron pensa devenir fou, et il se précipita vers la croisée, à travers les fentes de laquelle filtrait un rayon du jour naissant. Il l'ouvrit et se pencha vivement au dehors, comme si, pour chasser les terreurs de son esprit, il eût voulu de l'air et de la lumière. Mais soudain, il poussa un cri d'épouvante et chancela. La prairie, le parc, la forêt, le village, tout ce ravissant paysage sur lequel ouvrait sa fenêtre, tout ce qu'il avait vu la veille, avait disparu, comme si Satan lui-même l'eût emporté dans un pli de son aile décharnée. Et à la place, il ne vit plus qu'un site tourmenté, désert, sauvage, un torrent sinistre, une forêt sombre et muette à l'horizon, une plaine inculte et désolée entre la forêt et le torrent. Satan avait passé par là. Chapitre 18. Au cri poussé par le baron, une porte s'ouvrit, et le châtelain de Oldenkrasbourg entra, son sourire bonhomme et un peu railleur aux lèvres. « Le veneur noir !» murmura le baron. « Ah, enfin !» s'écria le châtelain jovialement. « Enfin, mon cher baron, vous avez eu peur !» Le baron pâlit de colère. « Peur ? » s'écria-t-il. « Moi, peur ? Par les cornes de Satan, mon père, je le crois, mon gentilhomme. » Qui que vous soyez, répliqua monsieur de Nossac, à qui ce mot de peur avait rendu tout son sang-froid, qui que vous soyez, mon hôte, je vous somme de me prouver que j'ai eu peur.
Vous avez poussé un cri qui s'en charge, baron.
Vous croyez ?
Pardieu !
Eh bien, dit monsieur de Nossac, si j'ai eu peur de l'incertitude, chassez cette incertitude. Et montrez-vous enfin à moi sous votre jour véritable. Vous verrez si j'ai peur encore. Si vous êtes le fils de Satan, dites-le. Et alors je lutterai, moi, homme, avec vous, être surnaturel. Si vous êtes un simple gentilhomme qui se plaît aux mystifications, dites-le également. Car je trouve que les mystifications durent depuis trop longtemps, et mon épée y mettra un terme.
Et en prononçant ces paroles, monsieur de Nossac s'appuya fièrement sur son épée et regarda le veneur en face.
« Mon cher hôte !» fit celui-ci avec un éclat de rire moins railleur que bienveillant. « Je suis dans mon tort cette fois, et je vous en fais humblement mes excuses. J'aurais dû m'en tenir à mes plaisanteries d'hier et ne point les renouveler aujourd'hui. Si les excuses ne vous suffisent point, j'ai mon épée au service de la vôtre. »
« Ah ! » dit froidement le baron. « Est-ce que vous n'avez point encore assez joué le rôle du châtelain bonhomme, messire Satan ?»
Un nouvel éclat de rire échappa au comte.
« Vous êtes fou ! » dit-il. « Je suis de chair et d'os, comme vous. »
« Ce n'est point ce que vous disiez tout à l'heure, cependant. »
« Tiens, vous y avez donc cru ?»«
Il me semble, » fit monsieur de Nossac avec hauteur, « que la chose est assez croyable. »
Vous trouvez ?
Sans nul doute, et pour preuve, je vous demanderai ce que vous avez fait du paysage, qui hier était sous mes fenêtres.
Êtes-vous bien sûr qu'il était sous ces fenêtres-là ?
Très sûr, je reconnais le lit, les tentures, tout, jusqu'à ce fauteuil, où j'ai, en me couchant, déposé mon habit.
Eh bien, dit le comte, puisque vous en êtes aussi sûr, venez avec moi, je vais vous convaincre du contraire.
Et il entraîna le baron, qui le suivit sans mot dire. Comme la veille, le comte de Oldenkrasbourg fit traverser à son hôte plusieurs salles contiguës et arriva enfin à une chambre à coucher où il s'arrêta.
« Voyez !» lui dit-il.
Le baron promena autour de lui un regard d'étonnement et reconnut une chambre absolument semblable à celle qu'il occupait la veille et non moins semblable comme meuble, espace et tenture à celle qu'il venait de quitter.
« Vous voyez, lui dit-il, que tout est ici dans le même ordre que là-bas. Une seule chose y manque, votre habit. J'ai pris soin de le faire déménager en même temps qu'on vous transportait, endormi, d'un lit dans un autre. Vous avez le sommeil bien lourd, baron. » Et ce disant, le comte de Holden-Grasbourg ouvrit la croisée, et le baron reconnut son visage riant et pittoresque de la veille, sa prairie en fleurs, son parc ombreux, son village coquet, sa forêt verte, et comme la veille, il aperçut un homme et une femme se promenant sous les murs du château et foulant l'herbe drue, toute ruisselante encore de la rosée du matin. Seulement, ce n'était ni Rochaine ni Wilhelm, mais Gretchen et Hermann, son amant. Comme la veille, le baron tressaillit et sentit un nuage passer sur ses yeux. Il était jaloux de sa femme trépassée, comme si elle eût été vivante. « Monsieur, » dit-il au comte, oubliant soudain la situation hostile qu'il avait prise vis-à-vis de lui. « Êtes-vous bien sûr que cette femme-là est la maîtresse de votre fils Hermann ?»«
Gretchen ? Mais sans doute. »
« Eh bien, moi, je vous dis que c'est ma propre femme, ma femme défunte qui revient pour me tourmenter et me sucer au cou chaque nuit. »«
Vous êtes fou !»«
Non, je ne suis pas fou, j'ai toute ma raison, et je ne dormais pas cette nuit. Elle est venue vers moi, à pas lents, comme la nuit précédente. Elle s'est couchée à côté de moi, elle m'a mordu comme la veille. »«
Tenez !»
fit le comte de Holden-Grasbourg avec insouciance. La meilleure preuve que je puisse vous donner qu'elle ne vous a point mordu au cou, c'est que la piqûre que vous vous étiez faite avec la pointe de votre épée est à moitié fermée ce matin, et qu'il n'y a à côté aucune autre cicatrice.
« C'est vrai, »
murmura le baron interdit après s'être regardé dans une glace. « Ce qui n'empêche pas, croyez-le, que tout ce que je vous dis soit scrupuleusement exact. »
« J'en doute. »
Et si je vous répète mot pour mot la bizarre histoire qu'elle m'a contée ?
Voyons l'histoire.
Monsieur de Nossac, toujours l'œil fixé sur Hermann et Gretchen, qui s'appuyaient l'un sur l'autre avec une langueur voluptueuse, monsieur de Nossac, disons-nous, raconta d'une voix brève, saccadée, semée d'interruptions à chaque mouvement inusité des deux amants, cette étrange odyssée de sa femme à travers les cimetières de France et d'Allemagne.
« Décidément, fit le comte avec douleur, je me repens amèrement, monsieur le baron, de mes sottes plaisanteries. Elles vous ont frappé l'esprit à ce point que vous rêvez tout éveillé. »
Monsieur de Nossac regarda le comte. La figure de ce dernier exprimait une pitié profonde, une commisération si bien sentie qu'on ne pouvait la mettre en doute.
« Tenez, dit-il, il faut que je vous convainque.
Voyons.
« Et savez-vous où va Gretchen chaque jour ?»«
Chez le curé du village. »«
En êtes-vous sûr ?»«
Très sûr. »«
Vous voyez bien que je n'ai pas rêvé, que j'ai bien réellement vu et entendu, car ni vos fils ni vous ne m'avez donné ces détails, et cependant je le savais. Vous lui donnez un cheval, n'est-ce pas ?»«
Oui, » dit le comte étonné. « Et elle est venue d'Heidelberg ici à pied et mendiant. »«
Ben oui. » « Comment le savez-vous ? » ?»«
Et, » continua le baron en s'animant, « je sais bien d'autres choses encore. Par exemple, vous étiez au coin du feu quand elle est arrivée. »
Hermann s'est troublé et vous lui avez demandé
« N'êtes-vous point effrayé du rôle que vous allez jouer ?»«
Ma foi !» s'écria le châtelain de Holden-Grasbourg. « Vous êtes décidément sorcier et je finirai par croire à vos vampires. »
Pendant qu'ils causaient, le jour avait grandi, et l'aurore frangeait vaguement de pourpre et d'opale les sommets indécis et bleuâtres des montagnes voisines.
« Tenez !» dit monsieur de Nossac, se penchant à la croisée et y entraînant le comte.
« Voyez !» On venait d'amener un cheval à Gretchen, et Gretchen était montée dessus, aidée du genou d'Hermann, après avoir donné un long baiser à son amant.
« Eh bien !» demanda le comte. « Que voyez-vous là, donc, d'extraordinaire ?»«
Vous n'y voyez donc rien, vous ?»«
Ma foi, non. C'est Gretchen qui monte à cheval et qui s'en va. Que voulez-vous ? Cette femme est fière comme une vraie bohémienne qu'elle est. Hermann l'avait abandonnée, elle l'a suivie parce qu'elle l'aimait, mais elle ne veut pas manger de son pain. »
« Et elle va chez le curé ?»«
Mais certainement. »
« Eh bien, moi, je vous dis qu'elle va au cimetière. »
« Quelle folie !
Voulez-vous la suivre avec moi ? Hélas, dit le comte, je le voudrais bien, mon cher baron, ne fût-ce que pour vous convaincre de votre folie. Mais vous oubliez que je ne le puis.
Pourquoi cela ?
Parce que je suis, pour la contrée, le terrible veneur noir, et que si un paysan me rencontrait aux portes du village, il ne manquerait pas de dire qu'il a vu le veneur noir sans en mourir, ce qui ferait un grand tort à ma réputation.
Eh bien, j'irai seul.
Vous êtes libre, mais c'est folie. Le baron acheva de se vêtir à la hâte, puis sans vouloir écouter son hôte, qui s'exprimait à lui prouver qu'il était fou, il s'élança hors de la chambre, descendit l'escalier, et, l'épée à la main, il sortit du château, et s'engagea en courant dans le sentier que venait de prendre Gretchen au petit trot de son cheval. La trépassée cheminait entre deux haies fleuries, au pas, et semblait aspirer avec délice les arômes champêtres dont l'air était imprégné. Le baron marchait derrière elle, frissonnant malgré lui, et n'osant l'atteindre, bien que cela lui eût été facile. Tout à coup, la trépassée, qui paraissait rêver avec mélancolie, leva les yeux et interrogea le ciel oriental. Des flots de pourpre avaient succédé aux teintes irisées d'opale, et le soleil était proche. Elle sembla le comprendre, et elle pressa l'allure de son cheval qui prit le trot. Pour ne point la perdre de vue, le baron fut contraint de courir. En 10 minutes, Gretchen à cheval et lui à pied eurent atteint le village. En dehors du village, il y avait une enceinte de 100 mètres carrés, clôturée d'une haie vive toute en fleurs, plantée çà et là d'un bouquet de cyprès et parsemée de croix noires ou blanches, la plupart sans inscription. C'était le cimetière du village. La porte en était entrebâillée, ou plutôt elle n'avait point été fermée durant la nuit. Le champ du repos était ouvert à tout le monde. Gretchen s'arrêta à cette porte et descendit de cheval avec sa lente raideur. Puis elle interrogea de nouveau le ciel, qui se teignait de plus en plus des lueurs annonciatrices du soleil, et le baron, qui était derrière elle, l'entendit murmurer avec une joie d'enfant. « Oh, j'aurai le temps de cueillir des fleurs, j'aurai le temps !» Elle lâcha le cheval, qui, tout accoutumé sans doute à pareille liberté, gagna au petit galop l'endroit de la prairie où l'herbe était la plus douce et la plus appétissante. Puis à son tour, elle s'approcha d'un petit ruisseau qui coulait en babillant sous le gazon, se mit péniblement à genoux et cueillit une poignée de vergismernicht et de liserons bleus. Ensuite, elle s'approcha de la haie et y prit un rameau d'aubépine. Un jet de lumière glissa soudain sur la cime d'un roc voisin, et l'extrémité opposée de la vallée refléta le premier rayon du soleil. La trépassée poussa un cri, entra précipitamment dans le cimetière, s'enfuit jusqu'à un petit bouquet de sapins où elle disparut 1 minute, puis reparut aussitôt, drapée des pieds à la tête dans un suaire blanc. Le sien, sans doute, qu'elle cachait soigneusement chaque soir avant d'aller au château. Monsieur de Nossac était demeuré sur le seuil du cimetière, immobile, la sueur au front. Il la vit sortir, ainsi vêtue, se diriger vers une fosse récemment creusée et se coucher tout de son long. Il sentit ses genoux se dérober sous lui. Mais soudain, ce doute qui l'avait assailli tant de fois et qui le portait si souvent à croire qu'on le mystifiait, ce doute s'empara de lui une fois encore, et il s'écria « Cordieu, je veux en avoir le cœur net !» Et il s'élança vers la fosse et s'arrêta tout à coup. La morte était immobile, au fond de la tombe, enveloppée dans son linceul, tenant ses fleurs dans sa main crispée. Aucun souffle ne soulevait sa poitrine, aucun mouvement n'indiquait que tout à l'heure encore elle marchait. La mort l'avait reprise, elle dormait jusqu'au soir. Le baron se baissa pour prendre un coin du suaire et le soulever, mais soudain la terreur s'empara de lui, et il alla s'appuyer, défaillant et pâle, à un cyprès voisin. Chapitre 19. Si monsieur de Nossac n'était pas toujours maître d'un premier mouvement d'effroi, au moins se familiarisait-il aisément avec cette terreur. Il demeura une seconde appuyé au tronc de cyprès et presque défaillant, mais il se remit aussitôt, et, faisant un effort violent, il retourna sur le bord de la fosse et se baissa de nouveau. Cette fois, il eut le courage de prendre un pli du linceul, de le soulever à demi et de regarder assez attentivement le visage de la morte. Ce visage était pâle, immobile, muet, comme un vrai visage de mort qu'il était. Aucun muscle ne tressaillait. Aucune fluctuation mystérieuse du sang ne paraissait avoir lieu dans les veines bleues et gonflées qui couraient en réseau capricieux sous sa peau transparente et fine. Monsieur de Nossac le contempla longtemps. Puis il s'enhardit, et mettant les genoux à terre, il étendit le bras et toucha le visage avec sa main. Il était froid, comme la main que la trépassée avait mise dans la sienne 2 jours auparavant, comme le baiser qu'elle lui avait donné la nuit dernière. S'enhardissant de plus en plus, le baron prit alors son épée et de la pointe piqua légèrement le sein du cadavre. Il en jaillit aussitôt un sang rose, frais, transparent, qui s'étendit en gouttelettes fines sur le linceul et jaspa de taches rouges sa blancheur éblouissante. La morte ne bougea pas, et son sang continua à couler légèrement. Alors monsieur de Nossac, bien convaincu qu'il ne pouvait être le jouet d'une comédie, que c'était bien réellement à une morte qu'il avait affaire, et que ce sang qu'il venait de répandre, c'était le sien qu'elle lui avait pris la nuit précédente, monsieur de Nossac songea que la nuit prochaine, le vampire serait d'autant plus exigeant qu'il aurait moins de sang dans les veines, et que lui, baron de Nossac, finirait par mourir de cette perte continuelle dont il n'avait ni la volonté ni la force de se préserver. Ce raisonnement ainsi adopté par son esprit, il eut honte et regret de ce qu'il venait de faire. Il se pencha une fois de plus sur le cadavre et mit son doigt sur la piqûre, tandis qu'il cherchait un moyen de la bander. Ce moyen, il le trouva avec son mouchoir, qu'il noua fortement à un coin du suaire et qui étreignit la morte comme une ceinture. Quand il eut fini, il voulut se lever, mais il s'aperçut que le sang de la morte avait coulé sur ses mains. Il eut peur, et ses cheveux se hérissèrent. Il prit un coin du linceul et s'essuya. En tirant le coin à lui, il remua le cadavre, et les lèvres serrées de la morte s'ouvrirent, et il sembla au baron qu'elle allait parler et lui dire « Tu es un impie ». Alors il se sentit pris de cette lourdeur vertigineuse, de cette paralysie étrange qui s'emparait de lui chaque nuit, à l'heure où le vampire avait coutume d'arriver. Et il frissonna à la pensée qu'il allait être contraint peut-être de se coucher dans cette fosse côte à côte avec elle dans un cimetière, et de s'endormir de ce sommeil de plomb qui le prenait au départ de sa nocturne visiteuse. La terreur du baron devint telle qu'il fit un suprême et héroïque effort, se redressa sur ses jambes raidies, presque glacées, et s'élança hors de la fosse. Les 2 premiers pas qu'il fit au dehors furent terribles. Il semblait qu'une invincible force d'attraction le clouât à ce cadavre et à cette tombe encore ouverte. Mais enfin, ces 2 pas faits, la paralysie diminua. Il se traîna moins lentement. Puis il marcha plus vite. Enfin, il put courir, et se précipita dehors avec cette célérité de la peur que rien ne peut égaler. Mais sur le seuil du cimetière, il y avait une femme, debout, pâle, tremblante d'émotion. C'était Rochaine. Rochaine, à qui sa pâleur et son émotion ajoutaient une grâce et un charme de plus. Rochaine, belle, éblouissante, les yeux emplis d'une vague et suave tristesse, la bouche plissée par un sourire amer, une main sur son cœur comme pour en étouffer les pulsations précipitées. À sa vue, le baron poussa un cri. « Vous ici, Rochaine ? » murmura-t-il. Elle fit un pas vers lui, le prit par la main et lui dit « C'est ma vie que je risque en vous suivant ici. Mais n'importe, il faut que je vous parle. » « Oh, parlez !» murmura monsieur de Nossac en la regardant et sentant son admiration et cet amour, né spontanément et plusieurs fois menacé par l'étrange et funeste ascendant de Gretchen. Renaître et le dominer entièrement. « Pas là !»
fit-elle avec effroi.
« Pourquoi ?
Les morts sont trop près. Venez !»
Et elle l'entraîna.
Ainsi que nous l'avons déjà dit, la forêt était proche, et un chemin creux, bordé d'une haie vive à hauteur d'homme, y conduisait directement, sans qu'il fût trop possible d'être aperçu dans ce trajet, ni du château, ni du village. Rochaine s'y engagea d'un pas rapide, tenant toujours le baron par la main. À mesure qu'ils avançaient, le jour blafard qui éclairait la forêt devenait de plus en plus sombre, et bientôt Rochaine s'arrêta au milieu d'une sorte de clairière où des rochers avaient formé un banc naturel qui s'arrondissait en demi-cercle. « Asseyons-nous là, » dit Rochaine. Le baron s'assit auprès d'elle. Rochaine tourna la tête alors à droite et à gauche et inspecta les lieux environnants avec une minutieuse et prudente circonspection.
« Sommes-nous bien seuls ? » murmura-t-elle.
« Oui, » répondit le baron, regardant à son tour.
« Oh, c'est que... » dit Rochaine tremblante. « Si on nous entendait... Eh bien, il me tuerait !»«
Qui donc ?» rugit le baron.
« Lui !» fit-elle avec effroi.
« Qui, lui ?
Où il aime ?»
Le baron frappa le sol de son pied avec une colère subite.
« Toujours ce Willem » murmura-t-il. « Toujours lui !»
La voix du baron avait revêtu un timbre si dur que Rochaine tressaillit et que sa main trembla dans celle de Monsieur de Nossac. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais l'émotion étreignit sa gorge. Elle ne put qu'élever un regard suppliant vers le baron, un regard qui signifiait « Épargnez-moi, car je vous aime !» Mais, peu sensible à ce regard, le baron reprit avec la même irritation. « Que vous est donc cet homme ? Et quelle influence fatale a-t-il sur votre destinée, que vous frissonniez à son nom et trembliez à sa voix ?»
Rochaine ne répondit point et baissa les yeux.
« Dites, Rochaine, continua M. de Nossac, dites-moi que les terribles paroles que j'ai entendues il y a quelques heures, ces paroles infernales qui m'ont fait douter de tout, de la bonté de Dieu, de la vertu des femmes, de la candeur de votre sourire, dites-moi. »
Rochaine poussa un cri étouffé, se laissa glisser aux pieds du baron et murmura.
« Pardonnez-moi, je suis bien coupable. »
Monsieur de Nossac sentit sa raison chanceler, le cœur lui manquait. Son corps défaillir.
« C'était donc vrai ? » murmura-t-il.
« Oui, » dit Rochaine d'une voix éteinte.
« Ainsi, vous n'êtes point sa sœur ?»«
Non, » fit Rochaine d'un signe.
« Mais vous êtes... »
Il s'arrêta. Elle lui avait jeté un éloquent et suppliant regard.
« Ainsi, » reprit-il, « ce mariage... »«
Mensonge !»«
Mais c'est infâme !»
s'écria le baron hors de lui.
« Oh !» dit Rochaine, « je le sais bien que c'est infâme, mais que voulez-vous ? J'étais une pauvre grisette d'Heidelberg. Willem m'avait séduite avec une promesse de mariage. Willem avait pris sur moi un empire terrible. Willem me dominait complètement. Il partit avec Hermann, Conrad et le vieux Berkhausen.
« Qui est Berkhausen ?
Celui que vous appelez le veneur noir. »
« Ce n'est donc pas le père de Willem et de ses frères ?»«
Non, Willem n'a qu'un frère, Samuel. »«
Et les deux autres ?»«
Ce sont deux étudiants, leurs amis. »«
Mais ce Berkhausen,
c'est un vieil étudiant de 30e année. »«
Ce château n'est donc pas à lui ?»«
Non. »«
Mais qui est-il donc ?»«
Je ne sais. »«
Mystère !» murmura le baron.
« Étrange mystère !»«
Oh oui !»
répondit Rochaine frissonnante. « Ils obéissent tous cinq à cette Gretchen, que Dieu confonde. À cette Gretchen qui est morte ou vivante, je n'en sais rien, mais qui exerce une étrange influence sur tous, et sur vous-même !»
acheva Rochaine d'une voix étouffée.
Le baron tressaillit. « Sur moi ? » fit-il étonné.
« Oh oui !»
reprit Rochaine avec feu.
« Sur vous, vous l'aimez ?»«
Non !» s'exclama-t-il avec force.
Rochaine poussa un cri de joie.
« Dites-vous vrai ? » fit-elle en joignant les mains.
« Oui,
murmura le baron. « C'est vous que j'aimais. » Prochaine baissa la tête. « Et vous ne m'aimez plus, » fit-elle avec une indicible émotion. « Vous êtes à Willem, » répondit le baron d'un air sombre. Prochaine jeta un faible cri, un cri de détresse étouffée, ouvrit les bras, se raidit et tomba sur le gazon, presque évanoui. « Je vous aimais tant, » fit-elle. Ce cri, cet accent, allèrent droit à l'âme du baron et le touchèrent profondément. « Et si je vous aimais encore ? » demanda-t-il. « Dites-vous vrai, ne me trompez-vous point ? » s'écria-t-elle. « N'est-ce point la pitié qui vous arrache ces paroles ?» Monsieur de Nossac prit dans ses mains la tête frissonnante et pâle de la jeune fille, y mit un ardent baiser et répéta. « Rochaine, je t'aime !»« Eh bien, lui dit-elle, puisque vous m'aimez, suivez-moi. »« Que veux-tu dire ? Arrachez-moi à Willem, car Willem m'aime et me tuerait. Emmenez-moi loin de lui, car je ne l'aime plus, car je l'ai en horreur depuis que je vous ai vu, depuis que je vous aime. » Et Rochaine s'était mise à genoux et suppliait. « Emmenez-moi, répéta-t-elle, et j'aurai pour vous tant d'amour que vous oublierez que j'ai été un autre, que j'étais une pauvre fille, une grisette d'université. » « Je l'oublierai, dit monsieur de Nossac. « Et vous me pardonnerez, n'est-ce pas ? » fit-elle en lui prenant les mains. « Oui, répondit-il en lui donnant un second baiser. « Vous me pardonnerez d'avoir trempé dans cette comédie infâme dont vous avez été le jouet ?»« Oui, oui, mais fuyons !» s'écria monsieur de Nossac. « Oh, pas maintenant !» dit Rochaine. « Mais la nuit prochaine !»« Pourquoi ? Je préparerai tout pour notre fuite !» Monsieur de Nossac se sentit frissonner à une pensée subite. « Le vampire viendra » murmura-t-il. « Eh bien !» dit Rochaine dont l'œil s'alluma. « S'il vient ?»« Eh bien ?» interrogea le baron. « Vous le percerez de votre épée. »« Je ne pourrai pas. Il me fascine. » « Ce soir, à souper, jetez sous la table le dernier verre de vin qu'on vous versera. » Ce conseil illumina l'esprit du baron. « Je comprends tout maintenant, » fit-il, « et je me vengerai. »« Silence !» lui dit tout à coup Rochaine. « Silence ! Écoutez !» On entendait une voix dans l'éloignement qui appelait « Rochaine ! Rochaine ! Où es-tu ?» C'était la voix de Willem. Chapitre 20. Rochaine se serra, tremblante et pâle, contre le baron. « J'ai peur !» murmura-t-elle. « Ne craignez rien, je suis près de vous. »« Oh, c'est qu'il me tuerait !» Monsieur de Nossac eut un superbe sourire. « Si je le voulais toutefois, » dit-il en portant la main à la garde de son épée. « Rochaine ! Rochaine !» répétait la voix, qui semblait avoir une nuance de colère. « Tenez, » dit Rochaine, « le plus sage est de nous séparer. »« Déjà, enfant ?» Elle appuya ses petites mains sur les épaules du baron et lui sourit doucement. « Ne serons-nous pas réunis demain ?»« Oh, certainement, oui » murmura-t-il avec l'enthousiasme de l'amour. « Nous fuirons bien loin, n'est-ce pas, mon bien-aimé ?»« Oui, mon enfant. » »« Nous rejoindrons l'armée française, nous irons dans ton pays. » « Je te suivrai partout, comme le chien son maître, comme l'ombre son corps. »« Rochaine ! Rochaine ! » répéta la voix pour la troisième fois. « Rochaine, où es-tu ?» Et cette fois, la voix était furieuse, jalouse, implacable. Rochaine pâlit. « Adieu, » dit-elle. « S'il vient jusqu'ici, cachez-vous ou feignez d'être évanouie. » Ils se donnèrent un long baiser et elle s'enfuit. Mais elle avait fait 10 pas à peine qu'elle revint. « N'oubliez pas, ce soir, ne buvez pas votre dernier verre de vin, et tuez-la. » « Oui, » dit monsieur de Nossac, devenu rêveur. « Quand l'heure du départ sera venue, je vous préviendrai. J'aurai des chevaux tout scellés. Vous n'aurez qu'à vous habiller et nous partirons. Adieu !» Elle disparut. Il n'était que temps. Car à peine le bruit de ses pas s'était-il éteint dans la profondeur des taillis, qu'un bruit se fit entendre dans une direction opposée, et Wilhelm déboucha tout à coup dans la clairière où le baron était demeuré et feignait, d'après l'avis de Rochen, d'être complètement privé de ses sens. Wilhelm demeura stupéfait à sa vue.
« Oh ! » fit-il, « je commence à croire que, tout brave qu'il est, notre homme a grand-peur depuis 2 jours. Et au lieu de suivre Gretchen au cimetière, il a été pris d'une panique telle qu'il est venu rouler ici sur le gazon, comme un homme qui a réellement vu le veneur noir. »
Et il s'approcha du baron et le secoua assez fortement.
« Cordieu ! » murmura Wilhelm. « Nous voulons bien le tuer, mais à la longue, et il ne faut pas le laisser mourir aujourd'hui. »
Et Wilhelm courut à un petit ruisseau qui babillait sous l'herbe à quelques pas de là, y puisa de l'eau dans le creux de ses 2 mains réunies et revint la jeter au visage du baron. Celui-ci pensa que Wilhelm était assez convaincu de son évanouissement pour qu'il ne fût point obligé de le prolonger indéfiniment. Il ouvrit les yeux au contact de l'eau.
« Ah ça, mon hôte !» dit Wilhelm joyeusement. « Qu'avez-vous donc ?»«
Je dormais, » répondit héroïquement M. de Nossac.
« De quel sommeil, s'il vous plaît ?»«
Comment, de quel sommeil ?»«
Sans doute était-ce fatigue ou terreur ?»«
Terreur ?» fit dédaigneusement M. de Nossac.
« Sans doute, car vous aviez le sommeil bien dur. »«
Vous croyez ?»
Oh, j'en suis sûr, je vous ai vigoureusement secoué.
Alors, c'est que j'aurais mal dormi la nuit précédente.
Tarare, soyez franc, mon hôte.
Je le suis.
Vous avez éprouvé quelque nouvelle mystification de la part de mon très honoré père, le seigneur de Holden-Grasbourg, et l'effroi vous dominant, vous vous êtes enfui jusqu'ici, ou vous êtes tombé évanoui.
Eh bien, dit M. de Nossac, feignant un grand abandon.
« Cela est vrai, j'en conviens. »«
Aussi, répondit Wilhelm, il est une chose à laquelle je suis bien résolu. C'est à me brouiller avec mon père s'il continue ses plaisanteries ridicules. »«
Et moi ? » s'écria M. de Nossac avec une fin de colère. « Je lui demanderai raison des autres. »
« Ta, 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 mon cher hôte, calmez-vous de grâce et venez avec moi. »
« Où allons-nous ? » ?»«
Au château, où le déjeuner nous attend. »«
Tant mieux, » dit le baron, « j'ai faim. » »«
Et ensuite nous monterons à cheval et nous courrons un cerf. Nous n'avons pas chassé depuis 2 jours. »«
Gretchen en sera-t-elle ? » demanda M. de Nossac.
« Je ne sais pas, c'est possible. »«
Moi, je vous soutiens le contraire. » »«
Et pourquoi, s'il vous plaît ?»
Parce que Gretchen est couchée dans sa bière, au cimetière. Parce que je l'ai vue, moi, que je l'ai piquée avec mon épée.
Wilhelm tressaillit.
Et que, poursuivit le baron, quoi qu'on en puisse dire, elle est réellement morte, et c'est un affreux vampire qui a pris à tâche de me sucer et de me dévorer chaque nuit, goutte de sang par goutte de sang.
Quelle folie!
Soyez incrédule, que m'importe, je sais bien ce que j'ai vu. Je sais la terreur qui m'a pris et m'a fait fuir jusqu'à cet endroit où vous m'avez trouvé évanoui.
Vous avez été victime d'une hallucination.
Je vous jure le contraire.
Et moi, je ne vous crois pas.
Mais venez déjeuner.
Et il lui prit familièrement le bras.
À ce contact, M. de Nossac eut un frémissement de colère. Et il fut tenté de l'étouffer dans ses bras, de le broyer sur sa poitrine, d'enfoncer son épée jusqu'à la garde dans le sein de cet homme qu'avait aimé Rochen. Heureusement, M. de Nossac commençait à voir qu'on se moquait de lui, et que même on en voulait à sa vie, et il jugea prudent de se contenir. Ils arrivèrent au château, et là, Wilhelm aperçut Rochen dans le parc. Il courut à elle.
« D'où viens-tu donc ?»
« De la forêt, » répondit Rochen. Le front de Wilhelm se plissa une seconde sous l'étreinte d'un soupçon, mais ce soupçon s'évanouit aussitôt que Rochen eut ajouté « Je suis allé chez Werner, le bûcheron. »«
À table, baron, à table !»
cria la voix lointaine d'Hermann qui accourait. « Et à cheval après !» ajouta Conrad.
« Eh bien ?» fit mystérieusement le comte de Holden-Grasbourg en prenant M. de Nossac à l'écart.
« Je ne m'étais pas trompé, je l'ai vu au cimetière. »«
Vous êtes fou !»«
Non pas, je vous jure. »
Et le baron répéta au comte ce qu'il avait conté déjà à Willem. Le châtelain secoua la tête d'un air de doute, cependant il ajouta tout bas
« Il faut que j'en aie le cœur net. »
« C'est facile, dit le baron, je vais vous conduire. »«
Non, pas aujourd'hui, mais demain, nous la suivrons tous deux. »«
Soit, dit négligemment M. de Nossac. »«
À propos, dit Hermann survenant, je voulais que cet espiègle de Gretchen vînt avec nous aujourd'hui. »«
Eh bien, demanda le comte, jetant un regard significatif à M. de Nossac. »«
Elle a refusé. »«
Pourquoi cela ?»
« Parce qu'elle a prétendu qu'elle n'avait pas l'habitude de chasser tout un jour sans manger. »«
Et le repas de halte ?»«
Vous savez bien, mon père, que Gretchen est fière et ne veut pas manger de notre pain. »«
C'est juste. Eh bien, à cheval, nous nous passerons d'elle. »